Bonjour à tous. Les dirigeants de l'OTAN vont se réunir demain à l'OTAN, à Bruxelles, à un moment clé de notre sécurité. Et j'attends de pouvoir accueillir le président Zelensky, qui sera présent pendant la réunion. L'invasion brutale de l'Ukraine par le président Poutine sème la mort et la destruction partout, tous les jours. Les alliés sont unis en soutien du courageux peuple ukrainien et contre la cruauté du Kremlin. Poutine doit mettre fin à cette guerre et permettre le passage sûr et sécurisé de l'aide et des civils et faire de la vraie diplomatie. Les alliés OTAN ont répondu à la crise avec un fort soutien pour l'Ukraine et des coûts sans précédent pour la Russie. L'OTAN a agi avec célérité, unité, pour protéger et défendre tous les alliés. Il y a maintenant des centaines de milliers de troupes alliées avec une disponibilité opérationnelle accrue à travers l'Alliance. 100 000 troupes américaines en Europe et 40 000 forces sous le commandement direct de l'OTAN, principalement dans la partie est de l'Alliance. Ensuite de cela, avec de la puissance aérienne et navale, avec 5 groupes dans le Grand Nord et la Méditerranée. Au sommet demain, nous aurons encore des décisions supplémentaires à prendre. Je m'attends à ce que les dirigeants puissent renforcer la posture de l'OTAN dans tous les domaines, avec des augmentations importantes de nos forces sur le flanc est de l'Alliance, sur terre, dans l'air et en mer. La première étape est donc le déploiement de 4 groupements tactiques de l'OTAN, 4 nouveaux groupements tactiques de l'OTAN, en Bulgarie, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie. Avec des forces existantes qui sont les nôtres dans les pays baltes et en Pologne, nous aurons donc 8 groupements tactiques multinationaux OTAN le long du flanc est, de la Baltique à la mer Noire. Nous sommes face à une nouvelle réalité pour notre sécurité. Donc nous devons repenser notre dissuasion et notre défense à plus long terme. Aujourd'hui, ou plutôt demain, nos dirigeants OTAN vont réaffirmer leur soutien à l'Ukraine. L'Ukraine a le droit à l'autodéfense au titre de la Charte des Nations Unies. Nous aidons les Ukrainiens à exercer ce droit fondamental. Depuis 2014, les alliés entraînent les forces armées ukrainiennes et ont fortement renforcé leurs capacités. Ils mettent maintenant cet entraînement en pratique au front avec un grand courage. Ces derniers mois, les alliés ont renforcé leur soutien militaire et ont fourni des systèmes de défense aériens, anti-chars, des drones, du carburant et des munitions, ainsi que de l'assistance financière, et ils ont accueilli des millions de réfugiés. Demain, je m'attends à ce que les alliés s'accordent pour fournir un soutien supplémentaire, y compris en termes de cybersécurité, ainsi que de l'équipement pour aider l'Ukraine à se protéger contre des menaces chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires. L'invasion du président Poutine est brutale. Et la souffrance humaine est horrifiante et très douloureuse à voir. Nous sommes déterminés à faire le maximum pour aider l'Ukraine. Mais nous avons une responsabilité qui est de s'assurer que la guerre n'aille pas au-delà de l'Ukraine et ne devienne pas un conflit entre l'OTAN et la Russie. Cela causerait davantage de morts et de destruction. Je m'attends aussi à ce que l'on s'accorde pour renforcer un soutien ajusté à tous les partenaires qui sont à risque sous la pression russe, y compris la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine. Avec l'Union européenne, nous devons les aider à exercer leur souveraineté et à prendre des décisions indépendantes. Nous sommes face à un environnement sécuritaire très changeant, où des puissances autoritaires sont de plus en plus préparées à utiliser la force pour aboutir à leur fin. Donc, je m'attends à ce que nous abordions également le rôle de la Chine dans cette crise. Beijing, tout comme Moscou, remet en question le droit des pays indépendants, des nations indépendantes, à choisir leur chemin. La Chine a fourni à la Russie un soutien politique, y compris avec des campagnes de mensonges et de désinformation. Et les alliés sont inquiets que la Chine fournisse éventuellement un soutien matériel à la Russie pour son invasion. Je m'attends à ce que les dirigeants demandent à la Chine de respecter ses responsabilités en tant que membre du Conseil de sécurité des Nations Unies, d'arrêter de soutenir l'effort de guerre de la Russie et de se joindre au reste du monde pour demander une fin pacifique et immédiate à cette guerre. Nous demandons aussi au Bélarus d'arrêter tout acte de complicité dans l'invasion de Poutine. Les décisions que nous prendrons demain auront des conséquences très importante. D'abord, des renforts importants à notre sécurité nécessiteront des investissements importants dans la défense. Donc, je m'attends à ce que les alliés soient d'accord pour redoubler d'efforts en termes d'investissement. Il y a un nouveau sentiment d'urgence parce qu'on ne saurait prendre la paix pour argent comptant. Depuis le début de cette crise, l'Europe et l'Amérique du Nord sont unies au sein de l'OTAN. Et nous restons unis. Nous opposons à l'agression russe, nous soutenons l'Ukraine et nous protégeons tous les alliés. Voilà, je suis prêt à répondre à vos questions. Nous allons commencer par CNN, s'il vous plaît, madame. Oui, merci, Nasha Pershama de CNN. Monsieur le secrétaire général, l'Estonie demande que l'OTAN ait une force permanente dans la région qui soit capable d'arrêter une offensive de la Russie. Mais l'acte fondateur OTAN-Russie n'autorise a priori pas une base permanente dans les soi-disant nouveaux États membres. Donc pensez-vous qu'il soit temps de mettre fin à ce texte étant donné l'invasion de l'Ukraine? Et je me demande, le chef de la défense de l'Estonie pose la question de savoir si la Russie utilise des armes de destruction massive comme les armes chimiques. Est-ce que ce type de lignes rouges vont être abordées et comment l'OTAN réagirait-elle? Alors d'abord, il faut se souvenir que ces dernières semaines, nous avons déployé un nombre important de troupes prêtes au combat dans l'est de l'Alliance. C'est sans précédent, c'est une présence de l'OTAN sans précédent dans les États baltes, y compris l'Estonie. J'ai été moi-même sur place, j'ai vu les troupes, on a doublé la taille des groupements tactiques et le nombre, de manière générale, dans la partie est de l'Alliance, donc en taille et en nombre. Donc on parle de plus ou moins 40 000 troupes sous commandement direct de l'OTAN. Et en sus de cela, une présence renforcée des États-Unis et d'autres au regard d'accords bilatéraux. Donc ce sont des renforcements très importants. Et notre présence à l'Est, y compris en Estonie, avec des forces aériennes, terrestres et maritimes. Et nous sommes prêts à défendre, à protéger les alliés et à répondre de manière massive à toute menace ou attaque contre tout pays de l'Alliance. Cela est déjà réalité. Ces renforts sont déjà sur place. Et demain, nous prendrons des décisions pour un déploiement supplémentaire de groupes en tactique dans les quatre pays que j'ai mentionnés tout à l'heure. Ensuite, besoin de se poser la question des conséquences à plus long terme est également présent. Donc, en sus de ce que nous avons déjà fait, je m'attends également à ce que les dirigeants demain s'accordent sur un mandat pour les commandements militaires pour se poser la question des conséquences à plus long terme pour la dissuasion et la défense. Ce besoin de repenser la dissuasion et la défense, de la redémarrer, et il s'agira d'augmenter notre présence à plus long terme. Et nous ferons le nécessaire pour nous assurer que nous allons protéger et défendre tous les alliés et nous assurer que l'OTAN fournisse une dissuasion et une défense crédible à tous les pays, y compris l'Estonie. La Russie a fermé la porte à l'acte OTAN, à l'acte fondateur OTAN-Russie. Ils l'ont violé à maintes reprises, en 2014 notamment, lorsqu'ils ont annexé la Crimée, quand ils ont commencé à déstabiliser l'Est de l'Ukraine, quand également ils sont allés en Géorgie en 2008 et l'invasion de l'Ukraine. De manière générale, que nous voyons aujourd'hui, est une violation patente de ce texte.
On chemical weapons.
Concernant les armes chimiques, tout d'abord, toute utilisation d'armes chimiques modifierait de manière importante la nature de ce conflit et constituerait une violation flagrante du droit international et aurait des conséquences de grande envergure. Et c'est le message le plus important que nous devons véhiculer. Toute utilisation, en effet, d'armes chimiques serait inacceptable et aurait des conséquences importantes. NBC News pour la question. Monsieur le secrétaire général, alors le président Biden, en quittant Washington, a annoncé que l'utilisation d'armes chimiques par la Russie en Ukraine constitue une réelle menace. Vous avez dit que la paix ne peut pas être considérée comme argent comptant. Et il n'y a aucun signe qui indique que Vladimir Poutine prenne la diplomatie au sérieux. Et Zelensky va encore demander à l'OTAN que l'OTAN aide davantage. Alors s'il y a une utilisation d'armes chimiques en Ukraine, comment cela pourrait être moralement acceptable pour l'OTAN d'ignorer l'appel de Zelensky pour une intervention de l'OTAN? Comment est-ce que l'OTAN peut ignorer l'appel de Zelensky d'être approuvé au sein d'intégrer l'OTAN? Ce que nous voyons en Ukraine en ce moment est très douloureux. C'est horrible. Et nous voyons les conséquences d'une invasion de grande envergure et d'ampleur pleine et totale. C'est pour cela que l'OTAN a décidé de renforcer son soutien avec des systèmes de défense anti-aérien avancés, des systèmes anti-char avec différents types d'armes, avec des munitions. Et l'OTAN apporte ce soutien à l'Ukraine. Et cela vient en complément de ce que nous avons fait depuis de nombreuses années. En effet, les alliés OTAN ont entraîné depuis 2014 les troupes ukrainiennes. Et maintenant, ces troupes sont sur la ligne de front. Elles combattent la force envahissante. Et c'est surtout le courage, l'héroïsme des peuples ukrainiens, du leadership ukrainien qui leur a permis de résister et de combattre l'invasion russe. Mais c'est également le soutien dont ils ont bénéficié depuis de nombreuses années. Ce soutien s'est avéré très important. Et demain, lorsque les chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN se rencontreront, on discutera de la façon dont on peut davantage soutenir l'Ukraine. L'adhésion à l'OTAN n'est pas un point à l'ordre du jour, mais en revanche, bien sûr que nous allons parler de la façon dont nous pouvons aider l'Ukraine demain. Question de Sky News, Mark Stone. Pouvez-vous nous expliquer comment l'OTAN se défendrait en cas d'attaque nucléaire? Alors, dans les médias russes, il y a cette propagande des personnes proches du Kremlin qui disent de manière claire et qui parlent de manière claire d'une potentielle attaque nucléaire. Comment est-ce que l'OTAN se défendrait d'une attaque nucléaire? Donc, la Russie doit arrêter de nous intimider avec cette menace nucléaire. C'est dangereux et c'est irresponsable. L'OTAN est là pour protéger et défendre tous les alliés. Et nous envoyons un message clair à la Russie. Le message est que la guerre nucléaire n'est pas une guerre qui peut être vaincue et qui ne doit jamais être combattue. C'est pour cela que nous devons absolument mettre un terme à cette guerre en Ukraine. Nous devons tout faire pour éviter une escalade de cette guerre au-delà de l'Ukraine. Nous devons éviter que cette guerre devienne encore plus mortelle et dangereuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Toute utilisation d'armes nucléaires changerait de manière fondamentale la nature de ce conflit. Et la Russie doit absolument comprendre qu'une guerre nucléaire ne doit jamais être engagée. Et d'ailleurs, la Russie l'avait annoncé. Et cette intimidation, cette démonstration de force de la part de la Russie contredit ce qu'ils ont dit aux Nations Unies et dans d'autres formats. Et ils ont dit notamment qu'ils voulaient tout éviter pour éviter un conflit nucléaire. Monsieur le secrétaire général, toujours concernant ces armes de destruction massive, vous avez parlé donc des armes chimiques et biologiques dans votre présentation et vous avez parlé d'équipements pour protéger l'Ukraine. Pouvez-vous nous donner davantage de détails concernant ce que vous allez soumettre demain aux dirigeants? Alors, nous avons déjà apporté différents types d'appui et de soutien, notamment lorsqu'il s'agit de différents types de mesures pour se protéger en cas d'utilisation d'armes chimiques. Et je vais demander aux alliés de voir comment ils peuvent fournir davantage d'équipements afin que l'Ukraine puisse se protéger de ces armes chimiques. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment parce que ce sera un sujet de discussion demain, mais notamment et également parce que lorsque l'on parle des détails du soutien que l'on apporte, eh bien, c'est parfois une bonne chose de ne pas être trop dans le détail. On est là pour apporter un appui. C'est ce qu'il faut retenir. Évidemment, nous sommes extrêmement préoccupés par l'utilisation d'armes chimiques ou biologiques. Alors, non seulement il y a la rhétorique nucléaire du côté russe, mais il y a également ces allégations que l'Ukraine soutenue par l'OTAN serait en train de préparer une attaque à l'arme biologique. C'est une accusation complètement erronée, mais c'est peut-être une façon pour la Russie de créer un prétexte pour qu'ensuite la Russie puisse utiliser des armes chimiques. La Russie a par le passé utilisé des agents chimiques contre sa propre opposition, à Salisbury également. Et d'ailleurs, la Russie a facilité l'utilisation d'armes chimiques en Syrie en soutenant le régime d'Assad. C'est pour cela que nous sommes fortement préoccupés et c'est aussi pour cela que nous nous tenons prêts et que demain nous allons échanger sur la façon dont nous pouvons assister l'Ukraine afin qu'elle se protège contre l'utilisation d'armes chimiques. Et j'en profite, c'est un fait extrêmement grave. Évidemment, pour les Ukrainiens, mais toute utilisation d'armes chimiques ou biologiques pourrait avoir des conséquences déplorables également pour les pays alliés de l'OTAN. On parle de la contamination, de la dissémination d'agents chimiques et biologiques utilisés en Ukraine, qui pourraient aussi avoir des conséquences sur les populations qui vivent dans les pays alliés en Europe. Et donc, évidemment, c'est pour cela que nous sommes doublement préoccupés. Alors, prochaine question. Irina Sommer, Interfax Ukraine. Monsieur le secrétaire général, selon des officiels de l'OTAN et des États-Unis, le Bélarus serait prêt à envoyer des troupes dans cette guerre contre l'Ukraine. Qu'est-ce que cela changerait pour les Ukrainiens et comment cela modifierait la donne aussi pour l'OTAN? Deuxième question, portant sur la coalition. Des médias ont indiqué que les dirigeants en Pologne seraient prêts à discuter demain d'un envoi de mission de maintien de la paix en Ukraine. Ils ont parlé d'une mission OTAN même, de maintien de la paix. Mais pour revenir à 2003, Des coalitions ont été créées à partir de 3 alliés OTAN et un pays non-OTAN en Irak. Est-ce que cela pourrait être une solution envisageable d'avoir des pays qui veulent combattre pour l'Ukraine sans l'implication de l'OTAN? Pour répondre, concernant le Bélarus a été complice de cette invasion depuis le début et même avant le début de l'invasion. Le Bélarus, en effet, a permis à la Russie d'utiliser son territoire comme endroit où les troupes ont pu se masser avant l'invasion de l'Ukraine. Et le Bélarus continue à faciliter cette invasion, donc en fournissant son territoire, des bases aériennes, des infrastructures militaires, mais également en permettant à la Russie d'utiliser l'espace aérien bélarusse afin qu'elle puisse lancer ses attaques contre les civils ukrainiens, contre la population ukrainienne. Le Bélarus est donc déjà impliqué et de manière conséquente dans cette invasion. Le Bélarus a donc été complice de cette invasion et a soutenu l'invasion russe. Évidemment, nous exhortons le Bélarus de cesser cet acte de complicité, tout comme nous demandons à la Russie de mettre un terme à cette guerre contre son voisin, qu'est l'Ukraine. Maintenant, pour répondre à la question sur les forces. Alors, l'OTAN ne fait pas partie du conflit. Elle apporte un soutien à l'Ukraine. Nous sommes ici pour aider l'Ukraine à faire respecter son droit à l'autodéfense, ce qui est dans la Charte des Nations Unies. Il faut comprendre que nous devons absolument assister, aider l'Ukraine. Et c'est ce que nous faisons, nous allons renforcer nos efforts. Mais il faut également absolument éviter que ce conflit devienne une guerre complète et totale entre l'OTAN et la Russie. Par conséquent, les alliés OTAN ont envoyé un message clair en disant qu'ils n'enverraient pas de troupes en Ukraine. Question de la radio polonaise. Merci. Je viens de la radio publique polonaise. Monsieur le secrétaire général, s'agissant de la présence avancée sur le flanc est, est-ce qu'il est temps d'envisager d'augmenter ces bataillons qui sont en Pologne notamment et d'envisager des vraies brigades? Maintenant, concernant la menace, est-ce que les dirigeants pourraient préparer un vrai plan en cas de concrétisation de la menace nucléaire? Alors, s'agissant de la menace nucléaire, l'OTAN a des plans visant à protéger tous les alliés contre la menace. Mais notre message principal et prioritaire est qu'il faut que la Russie cesse cette rhétorique nucléaire dangereuse. Mais évidemment, n'ayez aucun doute, l'OTAN est prêt à défendre tous les alliés contre toute attaque, toute menace.
Après, sur la taille. Avant l'invasion, il faut savoir qu'on avait 4 groupements tactiques de taille bataillon et nous avons doublé leur taille en Pologne, en Lituanie, en Estonie et en Lettonie. Et on a aussi doublé le nombre de ces groupements tactiques en Slovaquie, Hongrie, Bulgarie et Roumanie. Les dirigeants annonceront cela demain. En Pologne, il y a des troupes supplémentaires des États-Unis. J'ai été récemment à la base aérienne de Vask, j'ai rencontré des pilotes américains et d'autres pays. Et donc, il y a une augmentation assez importante des alliés de l'OTAN, surtout une présence américaine importante dans la partie est, sur le flanc est de l'Alliance. Ça, c'est une réponse immédiate. Tout cela se passe très rapidement. Mais ensuite, il faut penser à quelque chose de plutôt long terme, l'adaptation de l'Alliance à plus long terme. Et donc, à partir de maintenant, jusqu'au sommet en juin, nous allons prendre des décisions plus fondamentales sur la dissuasion et la défense. Il s'agit de redémarrer, reprendre cela sur le flanc Est. Et il y a de toute façon une augmentation importante sur le terrain, sur le flanc Est, à long terme. Donc pour l'instant, dans l'immédiat, nous avons fait beaucoup. Et nous allons commencer le processus de changement à plus long terme de la dissuasion et de la défense qui s'inscriront dans la durée et certainement incluront aussi une augmentation de la taille de la présence des forces multinationales de l'OTAN sur le flanc Est. Chasse d'Ukraine. En bleu, le monsieur en bleu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, pensez-vous que demain vous aurez un sommet réussi et fructueux qui prendra en compte la position de la Hongrie? Parce que, comme vous le savez, ils vont bloquer les questions principales que vous allez mettre sur la table demain sur l'aide à l'Ukraine. Je pense que ce sera un sommet important, extraordinaire demain, étant donné la situation extraordinaire en termes de sécurité. C'est la plus grande menace de sécurité depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il faut le dire. Donc je pense que ce sera une réunion importante. Je pense que les alliés s'accorderont sur les questions importantes, y compris sur l'importance de fournir de l'aide à l'Ukraine, de renforcer notre dissuasion et défense et fournir le soutien à tous les partenaires qui sont sous pression de la Russie, par exemple la Géorgie et la Bosnie-Herzégovine. Et je pense que les 30 alliés pourront s'accorder. Politico, madame, de ce côté-ci, au deuxième rang. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je travaille pour Politico, Ali Bayer, et je sais que certains voudraient que vous restiez une année supplémentaire dans vos fonctions actuelles, étant donné la situation. Seriez-vous ouvert à garder vos fonctions un an de plus? Alors, c'est aux 30 alliés de prendre cette décision. Moi, je me concentre sur la préparation du sommet de demain. Étant donné la situation sécuritaire très grave que nous connaissons, et je laisse aux alliés le soin de décider du reste. Afghan Voice, madame Anvers. Merci beaucoup. Oana Lelmasadit, je sais que c'est une situation très compliquée. J'aurais voulu poser une question sur l'Afghanistan, qui a disparu des réunions et de l'actualité, malheureusement. Aujourd'hui, des millions de femmes et de jeunes filles attendent l'ouverture d'écoles et d'universités en Afghanistan, mais malheureusement, cela n'est pas le cas. Et je pense que les talibans, en tant que groupe terroriste, n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais coupé les ponts avec Al-Qaïda et d'autres réseaux. Et donc, dans le pays, les femmes disparaissent de la société. Et il n'y a pas de droits de la femme, droits humains ou de liberté d'expression ou de liberté du tout. On tue, ils violent, ils emprisonnent les gens en Afghanistan. Pourquoi est-ce acceptable pour l'OTAN et l'UE? Merci. Alors, je pense qu'il est très important de ne pas oublier l'Afghanistan. Surtout, ne pas oublier que l'éducation, c'est un droit humain fondamental qui s'applique aux jeunes filles et aux femmes, bien évidemment. Et c'était l'une des plus grandes réussites des 20 dernières années, que des millions de jeunes filles afghanes aient pu justement avoir une éducation, aller à l'école. Et donc, toute tentative pour empêcher les jeunes filles afghanes d'avoir une éducation viole les promesses des talibans et on doit leur demander de rendre des comptes, y compris sur toutes les promesses, y compris le droit à l'éducation des jeunes filles et des femmes. Donc, nous partageons la déception des Nations Unies en la matière et nous pensons fermement qu'il faut continuer à soutenir tous les Afghans qui veulent exercer leurs droits humains de liberté d'expression et également le droit à l'éducation pour les femmes. Le Financial Times. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, vous avez mentionné la Chine. Pensez-vous que la Chine soit un allié de la Russie dans ce conflit? Et que voudriez-vous voir de la part des États membres pour pressuriser la Chine pour qu'elle arrête de soutenir la Russie? Eh bien, on a vu que la Chine n'a pas condamné l'invasion. Elle s'est abstenue à l'Assemblée générale des Nations Unies sur le vote de la résolution qui condamnait l'invasion. On voit également que les autorités étatiques ont disséminé des mensonges sur l'Ukraine et sur l'OTAN. Les mêmes mensonges. Ce qui fournit un soutien politique à la Russie. Et pour l'OTAN, c'est très inquiétant parce que pour la première fois, la Chine remet en cause certains principes clés de notre sécurité, y compris le droit à l'autodétermination des pays. Du fait des mesures prises par le président Xi et le président Poutine, ils ont dit ensemble qu'ils étaient contre l'élargissement de l'OTAN. Donc ils ont travaillé ensemble et on s'inquiète du fait que la Chine aussi refuse aux pays européens le choix de choisir leur propre voie. Donc nous attendons à ce que les dirigeants demain demandent à la Chine de condamner l'invasion et engager tous les efforts diplomatiques pour trouver une issue à cette guerre dès que possible. Et de ne pas fournir un soutien. Ukrainian State TV. Oui, merci beaucoup. Je voudrais savoir si vous connaissez bien les besoins réels de défense de l'Ukraine et y a-t-il des priorités par rapport aux Ukrainiens et à leurs besoins? Savez-vous à quel point les Ukrainiens sont déçus de l'OTAN et comment expliquer votre stratégie aux citoyens lambda en Ukraine, à Kiev et ailleurs? Eh bien, ce que nous voyons en Ukraine est douloureux, c'est horrifiant, ne serait-ce que regarder cela. Donc, y être, c'est impossible à imaginer. Et la souffrance humaine, l'échelle de la violence, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Les alliés sont en contact rapproché à différents niveaux avec l'Ukraine, le président Zelensky, les ministres. On avait le ministre de la Défense qui a participé à notre ministériel la semaine dernière. Demain, le président Zelensky parlera au sommet de l'OTAN. Donc, vous le savez, le président et d'autres s'adressent à différentes entités politiques dans différents pays à travers l'Alliance, quasiment au quotidien. Et ce faisant, on a donc une coordination rapprochée, un contact rapproché plus exactement à plusieurs niveaux. Et on voit quels sont les besoins pour différents types d'aides aide financière, matérielle, militaire. Les alliés fournissent tout cela à l'Ukraine. Nous sommes au fait, puisque le président Zelensky et les autres représentants ukrainiens l'ont dit à plusieurs reprises, qu'ils sont reconnaissants pour le soutien, mais qu'ils veulent encore davantage d'aide. Donc, on a pu les aider de plusieurs manières. Et par exemple, la demande d'une imposition d'une zone d'exclusion aérienne, on a dit que ce n'était pas possible parce que nous pensons que cela risque de déclencher une guerre à plein entre l'OTAN et l'ennemi et que ça voudrait dire qu'il faudrait abattre des avions russes. Donc ce sera un conflit à plein. L'Ukraine est un partenaire qui est très important pour l'OTAN. J'ai été à maintes reprises et c'est très difficile. C'est très difficile de voir ce qui se passe en Ukraine. C'est une horreur et c'est la raison pour laquelle nous avons fourni un soutien, mais nous avons aussi imposé des sanctions sans précédent contre la Russie pour nous assurer que cette guerre prenne fin. Associated Press. Oui, merci beaucoup. Sur les groupements tactiques pour les quatre pays, la Bulgarie, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie, pourriez-vous nous donner une idée de quand ils vont arriver? J'imagine que c'est urgent. Et combien de temps est-ce qu'il resterait? Est-ce que ce serait plusieurs années ou jusqu'à ce que le conflit se calme? Et puis, il y avait une question relativement à la Hongrie qui apparemment ne veut pas les troupes sur place. Comment est-ce que cela va se passer? Eh bien, ils sont déjà là. Ils augmentent, ils sont de plus en plus intégrés opérationnels, mais les forces, dans une grande mesure, sont quasiment déjà toutes là. Ce seront des groupements tactiques multinationaux de l'OTAN. Il y aura une composante importante des forces de défense du territoire national, avec d'autres alliés de l'OTAN qui contribueront des forces. Encore une fois, cela fait partie d'une réaction immédiate. Ensuite de tout ce que nous avons fait d'autre. On parle de plusieurs centaines de milliers de troupes, enfin en tout cas 100 000 troupes américaines en Europe aussi, une grande partie sur le flanc Est. Donc ces troupes sont en alerte et c'est beaucoup plus que ce qu'on avait avant la crise. Et 40 000 troupes sous commandement direct de l'OTAN. Et c'est la réponse immédiate à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et ce sera en place autant que de besoin. Mais en parallèle, nous avons commencé le processus. Un processus à plus long terme relatif à la dissuasion et à la défense. Cette invasion, cette guerre brutale en Ukraine aurait des conséquences à long terme pour notre sécurité. C'est la nouvelle norme pour notre sécurité. Il faut donc réagir à cette nouvelle réalité. Mais ce processus à plus long terme va prendre plusieurs semaines. Mais nous pouvons le faire parce que nous avons déjà mis en œuvre des renforts à l'Est. Et nous verrons aussi des changements à plus long terme, y compris certainement une présence accrue dans les trois milieux, sur le flanc Est. Merci. Alors, deux questions supplémentaires, Wall Street Journal et après Bloomberg.
Wall Street Journal.
Merci. Donc, quand on voit la façon dont les troupes ukrainiennes ont réussi à retenir les troupes russes, d'ailleurs à la surprise de la Russie, c'est en grande partie aussi à l'entraînement fourni par l'OTAN. Et donc, fort de cela, est-ce que vous estimez que par le passé, l'OTAN aurait pu faire plus? Et si l'OTAN a fait plus, est-ce que la situation aurait pu être différente? Pour commencer, j'aimerais vraiment saluer le courage, le professionnalisme des forces armées ukrainiennes. J'ai pu les rencontrer en Ukraine. Et nous sommes bien conscients que par rapport à là où ils étaient en 2014, on a maintenant affaire à une force complètement différente que celle qu'il y avait il y a 8 ans. Les forces armées ukrainiennes, aujourd'hui, sont beaucoup plus vastes, sont mieux équipées, mieux entraînées, ont un commandement beaucoup plus efficace, sont dotées d'une meilleure logistique qu'elle ne l'était en 2014. Et à cela s'ajoute le courage, le moral des troupes. Et c'est grâce à tous ces éléments que l'armée ukrainienne réussit à repousser, à résister à cette invasion russe. Mais en même temps, il faut savoir que l'Ukraine est un grand pays. C'est le plus grand pays d'ailleurs en Europe. Il y a 44 millions d'habitants. C'est donc un pays important avec une armée très forte. Et donc, oui, et les alliés OTAN ont fourni notamment le Royaume-Uni. Les États-Unis et le Canada ont fourni une réelle assistance, un réel soutien ces 8 dernières années. Mais il faut aussi comprendre que l'OTAN a fourni un appui en matière de logistique, en matière de commandement, en matière de modernisation des institutions de sécurité. Et donc la transformation des forces armées ukrainiennes a bénéficié de l'appui de l'Ukraine. Et c'est dans certaines villes qui ont été attaquées, d'ailleurs, que nous avons fourni cet appui. J'ai moi-même été là-bas et j'ai pu voir comment l'OTAN a pu les assister ces 8 dernières années. Alors évidemment, rétrospectivement, il est toujours facile de dire c'est vrai qu'on aurait dû faire plus. Mais le premier enseignement à tirer est de se dire que cet appui a eu un réel impact déjà. Et de plus, cela, il faut aussi se dire qu'il va falloir soutenir les autres partenaires de l'OTAN de la même manière, car on voit que cela a porté ses fruits. Question pour Bloomberg. J'aimerais revenir sur le sujet des armes chimiques. La semaine dernière, vous avez dit que la Russie pourrait faire cela sous fausse bannière ou sous couverture de fausse bannière. Et aujourd'hui, vous parlez d'envoi d'équipements de la part des alliés. Pouvez-vous nous en dire davantage sur cette menace? Est-elle plus imminente maintenant? Nous sommes extrêmement préoccupés parce que nous entendons la rhétorique proférée par la Russie. Nous voyons que la Russie essaye de créer un prétexte, nous accuse, nous et l'Ukraine, d'utiliser ou de nous préparer à l'utilisation d'armes chimiques. Et nous savons aussi que la Russie a par le passé déjà utilisé des agents chimiques. Ils ont également soutenu Assad et facilité l'utilisation d'armes chimiques en Syrie. Mais nous faisons également état de nos préoccupations. Cela permet de diminuer la probabilité d'utilisation de ces armes chimiques, car les armes chimiques changeraient la nature du conflit, seraient une violation du droit international et entraîneraient des conséquences très lourdes. Il faut donc bien indiquer à la Russie ce message afin qu'ils n'utilisent pas d'armes chimiques en Ukraine. En effet, toute utilisation d'armes chimiques aurait non seulement des conséquences dévastatrices pour l'Ukraine, mais également pour les pays voisins. Car toute contamination, diffusion, dissémination d'agents chimiques pourrait avoir un impact sur les voisins. Merci beaucoup. Cela clôture la conférence de presse. À demain.